Radio Kapi.
Mesdames, Messieurs, voici l'ossature de votre journal. Prévention des naufrages et des embarcations sur le fleuve Congo, les autorités de la province de la Mongala interdisent la navigation nocturne aux embarcations de fortune et sollicitent aussi la dotation de la force navale en logistique permettant d'en assurer le contrôle. Ceci après les naufrages ayant coûté la vie à une cinquantaine de personnes. Lancement le week-end dernier à Kenge dans la province du Congo du programme de développement à la base des 145 territoires de la RDC. Ce programme lancé par le Premier ministre Samalou Koundé vise la réhabilitation et construction d'infrastructures de base au profit des populations dans les milieux ruraux. École sans banc est une campagne qui vise à distribuer près de 20 000 bancs dans les écoles des trois provinces pilotes de la RDC, dont notamment celle de Mbujimayi, de Lubumbashi et de Kinshasa. L'opération a été lancée le jeudi dernier au Kasaï Oriental par le ministre de l'EPST. Jean-François Ekofo, directeur général du Fonds de promotion de l'éducation, il nous en parle dans ce journal. Il est notre invité. Bienvenue à toutes et à tous. Ce journal part de Bumba, dans la province de la Mongala, où les autorités ont pris à nouveau des mesures afin de prévenir des naufrages d'embarcations sur le fleuve Congo. Il s'agit de l'interdiction de la navigation nocturne aux embarcations de fortune. Elle sollicite aussi la dotation de la force navale en logistique permettant d'en assurer le contrôle. Ceci après le naufrage d'un convoi de pirogues motorisées à quelques 24 kilomètres en amont de la ville. Le naufrage qui a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi dernier a fait plus de 50 corps repêchés et plusieurs disparus. Correspondance Paul Richard Malengela.
Selon l'administrateur du territoire Michel Manzia, les premiers éléments d'enquête donnent pour cause de ce drame qui a coûté la vie à plus de 52 personnes, la surcharge et la navigation nocturne sans projecteur. Et pour éviter un regain de naufrage à l'avenir, les autorités locales ont interdit la navigation nocturne.
Pour éviter ce genre d'accident, je crois qu'il y a des décisions que nous avions prises ici. Nous avions interdit aux embarcations qui n'ont pas de bon projecteur de ne pas naviguer la nuit.
Cependant, les engins de patrouille fluviale pour la force navale font défaut. M. Manzia plaide alors pour la dotation de cette unité en canot rapide.
Pour que l'État respecte, il faudrait que la force navale, nos marins, aient le moyen de mobilité sur l'espace liquide. Dommage, nous n'avons aucune unité flottante pour canot rapide pour sillonner le fleuve et puis décourager les navigants nocturnes.
Quant aux opérateurs économiques du territoire, c'est le délabrement de la route nationale numéro 6 qui les pousse à emprunter désormais des embarcations de fortune, s'exposant ainsi à la mort. C'est pourquoi le président territorial de la FEC Bumba, Omer Makungu, a dénoncé l'état d'abandon de ce tronçon d'Akula à Bunduki par les autorités du pays. Pourtant, a-t-il précisé, la population de la Mongala continue à payer régulièrement des taxes sans réhabilitation de nos routes comme dans d'autres provinces. Bandaka pour Chamalingela, Radio Okapi.
Deux jours après la déclaration de la résurgence de la maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Beni, les habitants de cette ville se disent inquiets. Sur terrain, les équipes du comité de riposte multiplient des rencontres avec différents partenaires du domaine de la santé pour contenir l'épidémie. Le point de la situation, André Kitenge.
La maladie a été confirmée dans la ville de Beni au centre de santé Boutili, situé dans la commune Moulekera. Le cas positif confirmé est celui d'un enfant de sexe masculin âgé de 3 ans. À la suite des hémorragies qu'il présentait, un prélèvement a été effectué et envoyé à Goma pour analyse. L'enfant est décédé le 6 octobre dernier dans le centre de santé où il était soigné. Cette situation inquiète certains habitants de Beni. Ils insistent sur l'observance des mesures d'hygiène, fort de l'expérience passée. Écoutons quelques-uns rencontrés dans les rues de Beni.
Ça nous inquiète, parce que c'est une maladie qui nous a rendu mauvais service, ça a tué beaucoup de nos frères, alors elle nous inquiète beaucoup.
Je suis tellement inquiété vraiment par cette situation, car nous avons perdu beaucoup de nos frères et de nos sœurs ici à Beni. Ce qu'elle a fait est de reprendre les mesures qu'on nous avait demandé de se laver régulièrement, de ne plus vraiment être entassé dans des voitures, et si de suite vraiment que nous puissions respecter ces mesures comme il faut.
Pendant ce temps, des rencontres se multiplient à la zone de santé de Beni entre différents partenaires pour contenir cette maladie. Des équipes du comité de riposte sont déployées dans la zone pour pouvoir identifier des personnes contacts du cas déclaré. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
À l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille, ce 11 octobre, nous parlons de la situation d'une catégorie particulière de jeunes filles du Nord Kivu, celles qui sont issues des viols. Nées au plus fort de la crise sécuritaire dans cette province, aujourd'hui, elles ont grandi et passent par une grave crise identitaire. L'organisation Programme d'appui aux initiatives féminines, PAIF, accompagne psychologiquement certaines de ces filles. Madame Marguerite Biziguet, assistante psychosociale dans cette organisation, invite la communauté à soutenir ces filles pour briser le cercle vicieux autour de leur vie. Elle est au micro de Rosalie Zawadi.
Il y a des filles qui sont ici du viol et ces filles-là, elles restent chez les grands-parents et parfois la maman part se remarier. Il y a des grands-parents aussi qui maltraitent ces filles. Ces filles viennent vers nous, elles ont des problèmes très sérieux. Il y a même celles qui réclament de connaître à tout prix leur père. Et demande aux grands-parents, les grands-parents disent, demandez à la mère ne sait pas dire les noms, et quand on travaille avec ses filles, elle dit vraiment, moi, vraiment, ma solution, c'est de connaître mon père. Et quand on essaie de leur faire comprendre qu'elles peuvent s'accepter comme ça, bon, ce n'est pas vraiment facile. Et ces filles aussi, elles sont exposées aux violences sexuelles. Le fait de ne pas avoir un père, elles recherchent l'affection partout, même dans les garçons, les malhonnêtes qui abusent d'elles et qui les rejettent. Et leur souffrance ne fait que s'accentuer. Parfois, elles mettent au monde encore d'autres enfants qui vont encore souffrir de cette crise d'identité.
Notons que cette année, la Journée internationale de la jeune fille est célébrée sous le thème « Génération numérique, notre génération », un thème qui veut mettre en avant le rôle moteur et innovateur que doivent jouer les jeunes filles dans le domaine du numérique. Je le disais tout à l'heure dans les titres, le programme de développement à la base des 145 territoires, vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, est opérationnel depuis le samedi 9 octobre. C'est le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui l'a lancé depuis Kenge dans la province du Congo. Ce programme consiste en une réhabilitation et construction d'infrastructures de base au profit des populations dans les milieux ruraux. D'après le Premier ministre, à travers ce programme, le président de la République souhaite que chaque Congolais puisse bénéficier de cet argent qui entre dans les caisses de l'État. D'autres détails avec vous, Billy Ivan Lutumba.
Ce sont toutes les provinces de la République qui sont concernées dans ce programme. Le coup d'envoi a été donné depuis la mission catholique de Bukangalonzo. Le Premier ministre a posé dans le sol un tuyau au centre d'adduction d'eau motorisée de Bukangalonzo. Ici, le gouvernement finance la réhabilitation de ce point de captage d'eau d'une capacité de 32 mètres cubes devant servir cette cité rurale. Samalou Kondé a également lancé à partir de la route nationale numéro 1 les travaux de réhabilitation et d'entretien des pistes de desserte agricole, en l'occurrence le tronçon Lonzo-Baringa-Ngazi-Fangulu, long de 95 km. Jean-Michel Samalou Kondé.
C'est un travail terrain. Pour nous, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter. Logiquement, ça doit aller dans notre planification de développement du pays beaucoup plus loin que là où on est maintenant. Et donc, vous nous avez vu venir ici dans la desserte d'eau sur une question de notre administration du territoire, parce que c'est aussi ça l'autorité de l'État. Mais à côté de ça, ici même, sur le même site, nous avons un lancement par rapport à l'hôpital. Nous avons un projet par rapport à l'enseignement pour la réhabilitation d'une école. Donc, mais ça entre surtout dans le cadre d'une juste redistribution de nos richesses.
Le Premier ministre précise par ailleurs que l'option levée est que tous les moyens supplémentaires désormais à leur disposition, en tenant compte même des accords avec la Banque mondiale ou le FMI, et plus d'aller dans l'investissement et du développement à la base.
En Ituri, la MONUSCO a lancé vendredi dernier les travaux de réhabilitation de l'axe routier Komanda-Idohou, long des 35 km sur la route nationale numéro 4 dans les territoires du Rubu. La cérémonie de lancement de ces projets a été présidée par le gouverneur de province au centre commercial de Komanda. Selon la chef de bureau intérimaire de la MONUSCO en Ituri, cette action s'inscrit dans le cadre de la protection des civils qui est exposée aux attaques des rebelles des ZADF à cause de l'état défectueux de cette route. Une intervention accueillie avec liesse par les usagers et les populations locales. Plus de détails, Isaac Remoyope.
Une grande occasion pour moi d'inaugurer ce jour.
C'est par ces mots du gouverneur de province que les travaux de réhabilitation de l'axe Komanda-Idohou ont débuté au centre commercial de Komanda. Ils consistent essentiellement à boucher les grands trous qui se sont formés sur cette route et qui rendent la circulation difficile. Les rebelles des ZADF profitaient de l'état de délabrement de cette route pour tendre des embuscades de véhicules. Plus de 25 voitures et camions ont ainsi été incendiés par ces groupes armés. C'est pour éviter que ces attaques et mieux protéger les usagers de cette route que la MONUSCO à initier ces projets dans le cadre de la protection des civils. Le gouverneur, le général Johnny Kachama, revient sur l'impact de ces travaux.
Ce tronçon, à cause de sa défectuosité, a permis à ce qu'il y ait autant d'embuscades dans les bourbiers. Aujourd'hui, nous aurons la fluidité, nous n'aurons pas des véhicules embourbés et en ce qui concerne l'escorte, nous prendrons moins de temps.
Pour la société civile locale, cette action suscite l'espoir de la restauration de la paix dans la zone qui est vidée de ses habitants à cause de la persistance de l'insécurité due à l'activisme des ADF. Dieudonné Malanga.
Ce projet, ça doit contribuer à la sécurité parce que l'intervention doit atteindre la population autant aux portes. Les ADF sont en train de circuler au bord de cette route.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Rentrée scolaire une semaine après, certaines écoles ont repris les enseignements, d'autres cependant observent un mouvement de grève, constat de Radio Kapi. Entre-temps, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, Tony Mwaba, a prévenu de sanctionner les grévistes. Paul Matendo pour les détails.
La rentrée scolaire, une semaine après, n'est pas toujours effective à Kinshasa. Dans plusieurs écoles, les enseignants n'ont pas répondu présent. C'est ce qui a été observé, par exemple, au collège Boboto, au lycée Bosangani et au lycée Bolingani, trois écoles conventionnées catholiques. Selon plusieurs sources, ces enseignants n'ont pas eu gain de cause après la réaction du gouvernement sur leurs revendications. Parmi ces revendications s'aligne, par exemple, l'augmentation des salaires des enseignants. Après le premier discussion avec les banques syndicales, il leur avait été octroyé une enveloppe de 20 000 francs congolais par enseignant. Pourtant, les syndicalistes exigeaient 100 000 francs congolais. Le ministre de l'EPST, qui tenait à la rentrée scolaire apaisée, a lancé une mise en garde à l'endroit des enseignants et certains syndicalistes grévistes. Les inspecteurs font la ronde des écoles afin de constater la présence effective des enseignants. Les premières sanctions des désactivations des salaires des enseignants ont été notifiées à l'administration du collège Boboto et à celle du lycée Bosangani. Pour le secrétariat général à l'EPST, certains enseignants grévistes risquent d'être remplacés par les nouvelles unités. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que Tony Mwaba rencontre ce lundi 11 octobre les coordinateurs des écoles conventionnées et l'intersyndicale de l'EPST.
Toujours sur ce chapitre, la désactivation des salaires des enseignants du collège Boboto et du lycée Bosangani continue à susciter des réactions. La dernière en date est celle du syndicat des enseignants catholiques Sinecat. Selon Jean Bosco Pouna, secrétaire général de ce syndicat, désactiver ses enseignants est une violation grave de la Constitution. Le Sinecat se réserve le droit de porter plainte contre le ministre de l'EPST. Il s'exprimait ainsi ce dimanche à Kinshasa. On écoute Jean Bosco Pouna au micro de Paul Matendo.
Le Sinecat et la synergie des syndicats des enseignants, la RDC, se mobilisent pour pouvoir porter plainte contre les ministres de l'EPST pour ces violations qui rappellent le beau vieux temps de la dictature. C'est en principe les ministres de l'EPST qui enveniment la situation sur terrain. Parce que en lieu et place de répondre au cahier des charges des enseignants, eh bien, les ministres recourent à des méthodes fortes. Voilà pourquoi le Sinecat et la synergie des syndicats des enseignants de la RDC qui a lancé le mot d'ordre de non-reprise de travail demande à tous les enseignants de pouvoir poursuivre la grève jusqu'à ce que le gouvernement va devoir répondre aux revendications des enseignants. Nous devrons également dire que la crise qui secoue le secteur de l'EPST, il est important que le Premier ministre et le chef de l'État puissent suivre cette situation avec beaucoup d'attention.
Le directeur de la province éducationnelle Kasaï Central 1 indique qu'il fera respecter les instructions de sa hiérarchie. Mais Léon Toussoussoué note que depuis la rentrée des classes, les enseignants se présentent dans les écoles. Malgré ces constats, les inspecteurs sont largués sur terrain pour contrôler les cas d'absence. Il est au micro de François Kadima.
Nous n'avons pas constaté les cas de grève dans notre province, mais il y a plutôt des enfants qui n'ont pas répondu le premier jour de reprise de cours. Parce que les parents n'ont pas réuni suffisamment de moyens pour préparer la rentrée scolaire, étant donné que les vacances n'ont pris que 3 semaines. Mais nous continuons à suivre la situation de très près. Les inspecteurs itinérants et chefs de poule sont largués. Les chefs d'antenne et les agents de Sécopé doivent faire leur travail de routine, de contrôle physique. Et dès que nous allons tomber sur des cas comme ça, nous allons exécuter les instructions de notre hiérarchie. Mais pour le moment, Nous sommes contents de constater que notre province éducationnelle n'a pas connu le cas de grève. Les cours se donnent normalement.
Actualité internationale.
Alger exige de Paris le respect total de l'État algérien. Un éventuel retour de l'ambassadeur d'Algérie en France est rappelé au début du mois à Alger après des propos critiques du président Emmanuel Macron et conditionné au respect total de l'État algérien par Paris, a déclaré dimanche le président algérien Abdelmadjid Tebboune.
L'invité.
C'est Jean-François Ekofo, directeur général du Fonds de promotion de l'éducation. Il nous parle du lancement au Kasaï Oriental le jeudi dernier par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique de la campagne dénommée « École sans banc ». D'après M. Jean-François Ekofo, le Fonds de promotion de l'éducation va distribuer 20 000 bancs dans les écoles des trois provinces pilotes, dont notamment celles de Mbujimayi, de Lubumbashi et de Kinshasa. Jean-François Ekofo, directeur général du Fonds de promotion de l'éducation, qui est notre invité, s'entretient au téléphone avec Esther Ndalafina.
Bonjour, Monsieur François Ekofo. Vous étiez en mission en Mbujimayi pour une campagne dénommée École sans banc. Qu'est-ce que cela veut
dire? Justement, c'était pour lancer la campagne. C'est le premier de l'EPD, le professeur Tony Mwamba Kazabi, qui avait lancé cette campagne-là. C'est une campagne nationale qui vise à doter les écoles qui accueillent les enfants éligibles à la gratuité de l'enseignement primaire, des conditions d'accueil. Cette campagne vise à ce que ces enfants puissent étudier dans de bonnes conditions. Et nous avons dans notre programme près de 20 000 bancs que nous allons distribuer tout au long de cette année scolaire. Dans un premier temps, nous avons 6 000 bancs qui sont prêts, que nous allons distribuer dans les trois provinces. Kinshasa, Mbujimayi et puis à Lubumbashi. Et les autres provinces, ils vont par après. Alors, le Fonds de promotion de l'éducation nationale, c'est un établissement public qui a comme mission l'appui à l'éducation générale, donc l'éducation nationale. Mais nous mettons un accent, un appui particulier sur la gratuité de l'enseignement de base. Il y a une vision du chef de l'État, ce qui fait que nous nous battons bec et ongles avec des fonds propres pour soutenir, pour redynamiser, pour consolider cette gratuité-là au niveau de la base. C'est ça vraiment un challenge que nous avons, parce que la gratuité nous a aussi amené des effets induits qui gênent un peu l'évolution de cette gratuité-là. Et notre mission est de colmater, de résoudre progressivement ces effets induits-là pour que les enfants congolais étudient dans les autres conditions.
Parlons du Kasaï oriental où la campagne a été lancée. Combien d'écoles sont concernées par ce projet?
Nous avons travaillé avec les différentes provinces et le ministre provincial de l'éducation qui sont restés avec le 2000 bancs pour faire la distribution. Donc, ce sont les provinces qui connaissent les écoles qui ont besoin de bancs dans l'urgence parce que les autres les lots viendront. Donc, ils ont planifié la distribution et ils continuent et ils nous feront rapport avant qu'on donne encore le deuxième lot de bancs pour continuer.
Par rapport au lot qui va venir dans les tout prochains jours, pensez-vous que ça viendra dès maintenant à la rentrée scolaire ou bien ça prendra encore une année? Dans quelle échéance? Ça viendra après combien de temps, le deuxième lot?
Le deuxième lot, je crois bien, une autre planification, c'est à partir du mois de janvier au tard. C'est un processus. Nous sommes un établissement public. Il faut lancer, faire les appels d'offres, il faut les entreprises gagnent le marché et puis mettre, n'est-ce pas, suivre tout le processus, quasiment des fonds et puis l'exécution des projets. Et ce qui fait qu'il faut un peu de patience. Après 2-3 mois, je crois, les choses vont aller dans ce sens-là et en continuant à travailler. En appuyant les autres écoles qui n'ont pas encore de bancs. Nous savons que c'est un challenge parce qu'on ne peut pas croiser les bras. Avec les fonds propres, avec les maigres moyens que nous avons, nous nous y attelons à faire ce travail-là pour résoudre les problèmes et aller progressivement. On ne peut pas croiser les bras et attendre de l'extérieur. Il faut travailler avec les moyens que les quotités que nous prévons à travailler et progressivement. Je crois que l'État aussi nous soutiendra dans ce grand projet-là. On aura une voix de l'État, je vois bien, pour qu'on continue à faire le travail. Et j'espère qu'il y a d'autres partenaires qui font la même chose, comme l'UNICEF et les autres partenaires qui font ce travail. Cette énergie-là, et avec le temps, on a fait trouver la solution pour nos enfants.
Oui, parce que vous parlez des moyens, M. Jean-François Ekofo, le Fonds de promotion de l'éducation, comme c'est un établissement public, c'est une question de curiosité. Est-ce que ce fonds est financé par des partenaires extérieurs?
Nous travaillons sur le fonds propre. Nous avons plusieurs taxes qui ont été listées sur notre décret, mais à ce jour, il y a que deux taxes qui sont activées. Donc, la quotité sur le frais académique et la quotité, le frais minerval. total, donc il élève à 1000 francs, que nous nous partageons avec les provinces. Donc, nous faisons vraiment une très bonne politique, une bonne gestion pour arriver à ces résultats-là, comme je vous ai annoncé.
Oui, après le lancement de la campagne École sans bon, y a-t-il d'autres projets que votre service ou votre établissement va organiser dans les prochains jours?
Notre établissement a reçu la mission de consolider la gratuité, de renforcer la gratuité au niveau de la base. Donc, le projet que nous envisageons d'ici là, les jours à venir, c'est aussi aller dans le même sens. Pas d'école sans tôle. Et nous pensons donner des temps aux écoles éligibles à la gratuité et donner des tôles pour que les enfants étudient même pendant la saison des pluies, soient abrités et qu'ils aient aussi ces bons pour les enfants.
Merci beaucoup, monsieur Jean-François Ekofo.
Moi qui vous remercie. Nous comptons sur l'accompagnement de la Rio Capi pour cette campagne-là, vise à consolider, n'est-ce pas, la gratuité.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Journal que vous pouvez retrouver sur www.radiocapi.net et nous vous disons merci de votre fidélité.